Occitanie, terre d'extase. Extase. Parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, d'un visage, d'une musique, que nous nous oublions nous-mêmes. Cette fois-ci, l'extase que nous vous invitons à partager est celle que peut susciter la vie aventureuse et l'œuvre exceptionnelle du poète Clément Marot, né à Cahors à la fin du XVe siècle. Imaginons, c'est l'été à Cahors, vous flânez le long du Lot, des étals de marchands voisines des terrasses où règne la joie de l'être ensemble et du temps libre sous le soleil. Le gargouillis d'une fontaine et la masse composite d'un monument vous incitent à poser votre regard sur un visage sculpté. C'est celui de Clément Marot, de retour au pays. Sous son buste, ces mots gravés dans la pierre. Au lieu que je déclare, le fleuve Lot coule son eau peu claire, qui maint rocher traverse et environne, pour s'aller joindre au droit fil de Garonne. À bref parler, c'est Cahors en Quercy. Le cours tumultueux de la vie de Clément Marot impressionne, son œuvre poétique aussi. Il y consacre son existence tout entière. Aucun événement ne lui échappe. Les moindres faits et gestes de sa protectrice et de son roi alimentent sa verve poétique de façon inouïe, à des hauteurs lyriques rarement égalées. Ses ballades et épîtres et chansons racontent le siècle et la cour de France. Il s'inspire de François Villon, dont il fait mieux connaître la poésie à ses contemporains. Lorsque naît Clément Marot, Villon est mort depuis plus de 30 ans. La vie aussi mouvementée que talentueuse de l'homme, Clément Marot, est un sujet d'étonnement, comme peut l'être son œuvre poétique, prolifique et variée. Poète à plein temps au service des têtes couronnées, le turbulent Marot n'en reste pas moins un être libre, ce qui lui vaudra autant des guerres de religion, quelques cuisantes déconvenues. Trois aspects au moins nous passionnent en cet homme. Son génie poétique, sa constance malgré une carrière semée d'embûches, son humour. La musicalité propre à la poésie de Clément Marot tient tout entière dans son savoir-faire et ses ressources d'auteur. En matière de rime, celle-ci semble inépuisable. On a émis l'hypothèse que la rime constituait justement le point de départ de son écriture, qu'il composait, pour ainsi dire, à partir d'une rime qu'il avait dans l'oreille au moment où il prenait la plume et que cette rime l'incitait donc à créer le poème. Cette approche ludique pourrait bien avoir été sous l'influence de son rhétoriqueur de pair. Les chambres de rhétorique étaient en quelque sorte l'Oulipo de la fin du Moyen-Âge. Clément Marot naît vers la fin de l'année 1496 à Cahors, en Quercy. Il est le fils d'une Quercinoise et de Jean Marot, originaire de Caen et chapelier établi à Cahors depuis 25 ans. En 1505, la corporation des chapeliers l'ayant révoqué, Jean Marot quitte le Quercy pour la cour de France. Anne de Bretagne le reçoit en qualité de secrétaire. Alors âgé de 9 ans, le jeune Clément est confié à plusieurs régents. À l'âge de 20 ans, il se livre à ses premiers essais poétiques. Il commence à recevoir les conseils du poète Jean Lemaire de Belge. Il entre comme page au service de Nicolas Ier de Neufville, seigneur de Villeroy, ex-secrétaire des finances du roi. Il lui dédiera plus tard le temple de Cupidon. Puis vient l'avènement de François Ier. Après 1515, Marot devient clerc de chancellerie. Il suit peut-être des études de droit à Orléans car il s'affilie à la basoche, qui est une corporation hédoniste d'étudiants, de juristes, comprenant notaires, huissiers, juges, avocats, procureurs. En 1517, le 31 octobre, coup de tonnerre et déflagration multiple. Le moine catholique Martin Luther placarde ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Cette affiche condense ses critiques du catholicisme. C'est le début de la réforme protestante. L'année suivante, Clément Marot entre au service de Marguerite d'Angoulême, à qui il est donné par le roi François Ier. Il compose aussitôt plusieurs épîtres, dont la petite épître au roi. La voici maintenant lue par Daniel Mesguich.
Marot, petite épître au roi. En m'ébattant, je fais rondeau en rime. Et en rimant, bien souvent, je m'en rime. Bref, c'est pitié d'entre nous, rimailleurs, car vous trouvez assez de rimes ailleurs. Et quand vous plaît, mieux que moi, rime assez. Des biens avez et de la rime assez. Mais moi, tout à ma rime et ma rimaille, je ne soutiens, dont je suis mari, maille. Or, se me dit un jour quelque rimard, viens ça, Marot, trouves-tu en rime marre, qui servent aux gens, toi qui as rimassé? Oui, vraiment, réponds-je, en rimassé. Car tu vois bien la personne rimante, qui au jardin de son sens la rime hante, si elle n'a des biens en rimoyant, elle prendra plaisir en rime oyant. Et m'est advis que si je ne rimouais, mon pauvre corps ne se rouait nourri mouais. Ne demi-jour, car la moindre rimette, c'est le plaisir où faut que mon riz mette. Si vous supplie qu'à ce jeune rimeur fassiez avoir un jour par sa rime heure, afin qu'on dit, en prose ou en rimant, ce rimailleur qui s'allait en rimant, tant rimassa, rima et rimonna, qu'il a connu quel bien par rime on a.
Voilà un bel échantillon du jeu ludique de Marot avec les mots. Revenons à Marguerite d'Angoulême, la future Marguerite de Navarre. C'est une femme de lettres qui cultive les arts. Elle est la fille du prince poète Charles d'Orléans et elle sera la grand-mère de Henri IV. En 1520, Clément Marot, alors âgé de 24 ans, l'accompagne au fameux camp du Drap d'Or, qu'il célèbre dans une ballade et un rondeau. Il s'agit là de l'entrevue diplomatique entre François Ier et Henri VIII à Ballingham, dans le nord de la France. Les festivités entourant la rencontre des souverains anglais et français durent 17 jours dans un faste et un luxe justifiant pleinement son nom. Le jeune Marot dut conserver un souvenir ébloui de cet événement nécessitant la coopération et la main-d'œuvre de pas moins de 5000 personnes. Écoutons ce qu'il en dit. De deux grands rois, la noblesse et puissance vue en ce lieu nous donne connaissance que amitié prend courage de lion. Pour ruer juste vieille rébellion et mettre sus de paix les jouissances. Soit en beauté, savoir et contenance, les anciens n'ont point de souvenance d'avoir onc vu si grande perfection de deux grands rois. Et le festin, la pompe et l'assistance surpassent en bien le triomphe et prestance qui fut jadis sur le mont Pélion, car de là vint la guerre d'Ilion. Mais de si vient paix et alliance de deux grands rois. Savourons maintenant un exemple de son humour tel qu'il nous apparaît dans l'épitaphe de frère Jehan, l'évêque cordelier, natif d'Orléans, qui est daté de 1520. Sigy repose et d'Orléans, le feu évêque d'Orléans, j'entends l'évêque en son surnom et frère Jehan en propre nom, qui mourut l'an 520 de la vérole qui lui vint. Or, afin que sainte et ange ne prennent ces boutons estranges, prions Dieu qu'au frère Frappard, il donne quelques chambres à part. Notons que dans l'imaginaire de l'époque, le frère Frappard est un moine libertin et débauché. Nous sommes maintenant en 1521. Le poète suit le duc d'Alençon dans sa campagne de Hainaut contre Charles Quint. On relève une abondante production officielle, des épîtres, une ballade, des rondeaux. Et puis, 3 ans plus tard, ça y est, Marot figure enfin sur l'état de Marguerite d'Angoulême en qualité de secrétaire. Il est pensionné et peut vivre de sa plume. Hélas, un peu plus tard, en 1525, pour lui et pour les autres, pour tout le royaume, c'est le désastre de Pavie. Le roi de France, François Ier, est fait prisonnier en Italie. Marot n'est pas présent à la bataille. En 1526, les ennuis commencent pour Marot. Fin février, il est mis en prison au Châtelet, à Paris, pour avoir mangé du lard pendant le carême. Il a 30 ans. En mars, il est transféré à Chartres et assigné à résidence. Il y compose l'Enfer, dans lequel il dénonce la justice de son temps. Il est libéré 3 mois plus tard. À la fin de l'année, Jean Marot, le père, âgé de 76 ans, meurt dans les bras de son fils Clément. Le 5 mars 1527, jour de Mardi Gras, Marot scelle une alliance avec Anne d'Alençon, nièce de ses protecteurs. Long amour platonique jusqu'en 1538, qui ressemble d'ailleurs davantage à une union courtoise qu'à un mariage. Marot lui dédie de nombreux poèmes. Voici les paroles du Dizain de neige, donc d'hiver, qui lui consacre dans sa belle langue. Anne, par jeu, me jeta de la neige, que je croyais froide, certainement, mais c'était feu, l'expérience en neige, car embrasé je fus, soudainement, puisque le feu loge secrètement dedans la neige, où trouverais-je place pour n'ardre point ? Anne, ta seule grâce, éteindre peu le feu que je sens bien, non point par eau, par neige, ni par glace, mais par sentir un feu pareil au mien. En octobre, Marot fait échapper un prisonnier des mains de la police et se voit emprisonné lui-même. Il adresse donc une épître au roi qui le fera libérer début novembre. Épître au roi pour être délivré de prison. Roi des Français, plein de toute bonté, 15 jours, ah, je les ai bien comptés, et dès demain seront justement 16 que je fus fait confrère au diocèse de Saint-Marie, en l'église Saint-Prix. Si vous direz comment je fus surpris et me déplais qu'il faut que je le dis, 3 grands pandards vinrent à l'étourdi en ce palais me dire en désarroi « Nous vous faisons prisonnier par le roi ». Décembre. Il publie sa longue composition intitulée « Déploration de Florimond Robertet » qui est considérée comme l'une des pièces maîtresses de son œuvre poétique. Ce poème de 172 vers revient sur la façon d'aborder personnellement la mort d'un proche et sur la façon d'en rendre compte d'un point de vue littéraire. Mais quand la mort a fait son maléfice, amour a donc use de son office, faisant porter aux vrais amis le deuil, non point un deuil de feintes larmes d'œil, non point un deuil de draps noirs annuels, mais un deuil teint d'ennui perpétuel, non point un deuil qui dehors apparaît, mais qui au cœur sans apparence croit. Voilà le deuil qui a vaincu ma joie. En 1528, René de France, fille de Louis XII, future protectrice de Marot à Ferrare, épouse Hercule d'Est. Marot compose alors un chant nuptial pour célébrer l'événement. Le compositeur français Josquin des Prés avait été son employé au début du siècle. Nous lui devons le morceau de circonstance que vous allez entendre et qui s'intitule « Baisez-moi, ma douce amie ».
Baisez-moi, ma douce amie. Par amour, je vous en prie.
Et non me ferai.
Et pourquoi ?
Si je faisais la folie, ma mère en serait Marie. Voilà de quoi.
Baisez-moi.
voilà comment on parlait, on chantait le bisou au début de la Renaissance française. Alors, de 1528 à 1534, un peu de quiétude pour Marot, 6 années de grande faveur pour lui s'écoulent à la cour de France. Il est marié, aura un fils, Michel, poète à son tour, et une fille qui deviendra religieuse. Mais en 1531, quelques ennuis cependant. Marot est malade de la peste pendant 3 mois, puis il est volé par son valet, sur quoi il compose, évidemment, une épître au roi pour avoir été dérobé. Un an plus tard, il est de nouveau inquiété pour une affaire de lard consommée en période de carême. Il compose une épître à l'intention de son ami cher Lion Jamais, sieur de Chambrun, qui est clerc de finances et natif du Poitou. On pourrait dire que Jamais est à Marot ce que la Boétie sera à Montaigne, presque un alter ego. Épître à son ami Lion. Je ne t'écris de l'amour vaine et folle, tu vois assez si elle sert ou affole. Je ne t'écris ni d'armes ni de guerre, tu vois qui peut bien ou mal y acquérir. Je ne t'écris de fortune puissante, tu vois assez si elle est ferme ou glissante. Je ne t'écris d'abus trop abusant, tu en sais prou et si n'en va usant. Je ne t'écris de Dieu ni sa puissance, c'est à lui seul t'en donner connaissance. Je ne t'écris des dames de Paris, tu en sais plus que leur propre mari. Je ne t'écris qui est rude ou affable, mais je te veux dire une belle fable. C'est à savoir du lion et du rat. Suit en effet une fable que Marot offre à son meilleur ami en jouant sur l'homophonie entre le prénom de son meilleur ami, justement, et le roi des animaux. Emprisonné de nouveau, il doit sa liberté à une intervention cautionnée par Marguerite d'Angoulême, devenue reine de Navarre par son mariage en 1527. Son recueil de poèmes intitulé « L'adolescence clémentine », entendez les années de jeunesse de Clément Marot, rencontre un grand succès. En 1533, un événement éditorial d'importance consolide encore la notoriété de Marot. Le psaume 6, traduit par lui, est inséré dans le miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre, la reine. En août, Marot se querelle avec François Sagon aux noces d'Isabeau d'Albret. En octobre, il est obligé de fuir. Le Parlement perquisitionne à son domicile parisien et fait brûler livres et manuscrits. Fin novembre, il est arrêté à Bordeaux, interrogé et relâché. En décembre, il arrive à Nérac auprès de Marguerite de Navarre. C'est alors que se conjuguent dangereusement les deux affaires dites des placards. En 1534 et 1535, celle-ci constitue un tournant dans la répression contre les protestants du royaume de France. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, entre 2 et 3 heures du matin, des affiches sont placardées dans plusieurs villes du royaume de France. À Paris, Orléans, Rouen, mais aussi dans les villes royales de Blois et Tours, ces affiches fleurissent en des lieux stratégiques comme les carrefours, à la vue de tous. L'une d'elles est même posée sur la porte de la chambre du roi François Ier au château d'Amboise. Elles frappent le regard. Quant à leur message, leur titre donne la couleur. Article véritable sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe papale, directement contre la sainte scène de Jésus-Christ. Sans équivoque, le texte attaque la messe et plus particulièrement la doctrine catholique relative à l'Eucharistie. Cette première affaire des placards cause un scandale, car on estime que le roi est provoqué personnellement. On se rend également compte que les protestants, que l'on nomme alors luthériens, sont plus nombreux et organisés qu'on ne le pensait. Entre 200 et 300 personnes sont arrêtées et plusieurs sont brûlées vives. L'auteur des placards, le pasteur Picard, Antoine Marcourt n'est pas inquiété car il vit à Neuchâtel, en Suisse. Ceux que l'on appelle les évangéliques travaillent, à l'inverse des luthériens, à réformer l'Église dans la continuité, depuis l'intérieur, sans rompre avec Rome. Humanistes, ces évangéliques souhaitent revenir à l'Église au temps des apôtres, une Église avant tout fondée sur le message biblique. À l'inverse des luthériens, qu'ils souhaitent éradiquer du royaume, François Ier protège les évangéliques, pourtant considérés comme hérétiques par le Parlement et la faculté de théologie de l'Université de Paris. Les choses vont se gâter. Moins de 3 mois après la première, une seconde affaire des placards va de nouveau secouer la France. Le 13 janvier 1535, un nouvel ouvrage d'Antoine Marcourt est distribué clandestinement à Paris, jusque dans le palais royal du Louvre. Pour le pouvoir, c'est la provocation de trop. Le livre en question, intitulé « Petit traité très utile et salutaire de la Sainte Eucharistie », est un nouveau pamphlet contre la transsubstantiation. Or, le sacre du roi de France confère à la personne royale justement une dimension eucharistique. François Ier perçoit donc ces théories protestantes comme une menace directe par son pouvoir. La répression quasi immédiate est brutale. Une procession eucharistique a lieu à Paris le 21 janvier 1535, à laquelle participe le roi François Ier. Il promulgue un édit interdisant jusqu'à nouvel ordre l'impression de tout livre dans le royaume. Le 25 janvier, 73 condamnations à mort sont prononcées par contumace. Le poète Clément Marot et le réformateur Jean Calvin figurent parmi eux, mais sont parvenus à fuir le royaume. En novembre 1534 et mai 1535, donc, une vingtaine de protestants périssent sur le bûcher. Marot quitte la Navarre, puisqu'il a été condamné par contumace, et se réfugie en Italie. C'est son premier exil, pas le dernier. Il arrive en juin auprès de René de Ferrare, dont il devient le secrétaire et poète pensionné. Il adresse alors à François Ier une nouvelle épître expliquant pourquoi il s'est réfugié en Italie. « Je pense bien que ta magnificence, souverain roi, croira que mon absence vient par sentir la coulpe qui me poigne d'aucun méfait, mais ce n'est pas le point. Je ne me sens du nombre des coupables, mais je sais tant de juges corrompables dedans Paris que par pécune prise ou par ami ou par leur entreprise ou en faveur et charité piteuse de quelques belles humbles solliciteuses, ils sauveront la vie horde et immonde du plus méchant et criminel du monde, et au rebours par faute de pécune ou de support ou par quelque rancune aux innocents. Ils sont tant inhumains que content suis de tomber en leurs mains. » Un texte un peu exigeant à nos oreilles modernes. À Ferrare, en Italie, Marot compose le blason du beau Tétain. Un blason, dans ce sens, est une pièce de verre à rime plate, c'est-à-dire succédant en A-A-B-B, pour faire l'éloge, la satire ou la critique de quelqu'un. Par Tétain, il faut entendre ici Téton, en voici un extrait. « Tétain refait plus blanc qu'un œuf, Tétain de satin blanc tout neuf, Tétain qui fait honte à la rose, Tétain plus beau que nulle chose, Tétain dur, non pas Tétain, voir mes petites boules d'ivoire, au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. » Et Marot de poursuivre ainsi, encore un moment, en jouant sur les mots. Le réformateur Calvin se rend à Ferrare et y rencontre Marot. En juin, la nuit, le poète subit une sévère bastonnade en pleine rue, à l'instigation probable du duc de Ferrare. Marot fuit à Venise. Il n'empêche, malgré l'adversité, le poète est sûr de lui et de son art. C'est un optimiste, hôte éphémère de la Sérénissime. Il écrit « Et tant que oui et nenni se dira par l'univers, le monde, me lira. Au temps de Marot arrive à Venise un formidable compositeur flamand, Adrian Willaert, dont l'apport créatif réjouit les mélomanes de la Sérénissime. Voici justement une villanelle de sa composition, intitulée de façon peu amène « Vecchie lettrose », c'est-à-dire « méchante vieille ». Marot quitte Venise ayant reçu la permission de rentrer en France. Il passe par Genève et Lyon où il abjure publiquement ce que l'on nomme alors l'erreur luthérienne. Il est ainsi de retour dans le giron de l'Église catholique. De nouveau en faveur auprès du roi François Ier, il rejoint la cour à Compiègne. En décembre, il accompagne le roi et la reine de Navarre dans le sud-ouest, salue sa ville natale de Cahors dans un épigramme. Les deux premiers vers sont tout sauf modestes. Ils se comparent à Virgile, originaire de Mantoue, lequel se nommait Publius Vergilius Marot en latin. Prenons le cas. Cahors, que tu me doives, autant que doivent à son Marot Mantoue, de toi ne veux sinon que tu reçoives mon second roi, d'un cœur qui s'évertue, et que tu sois plus gai et mieux vêtu qu'aux autres jours, car son épouse humaine y vient aussi, qui ton Marot t'amène, lequel tu as filé, fait et tissu. Ces deux, bien plus d'honneur, te feront pleine d'entrer en toi que moi d'en être issu. En janvier 1538, Marot est fêté à Toulouse par les lettrés humanistes de la ville, Jean de Boissonnet, Guillaume de la Perrière et un certain Vignals l'accueillent par de joyeux festins. Jean de Boissonnet, né vers 1505 et mort vers 1559, est un professeur de droit de l'université de Toulouse. Il est poète et mainteneur des Jeux floraux de Toulouse. Et poursuivi pour ses idées humanistes. Ami de Rabelais, il reste aujourd'hui connu pour sa correspondance avec les grands humanistes de son temps. Guillaume de la Perrière, lui, est un savant humaniste emblématique de la Renaissance toulousaine. Il est d'autant plus qu'il publia en 1539 le premier recueil d'emblèmes en français, le Théâtre des bons engins. Ensemble de 100 dizains accompagnés d'autant de gravures et dédiées à Marguerite de Navarre. Jamais en reste de bons mots et d'habiles versifications, Marot dédie à Vignals toulousain ce qu'il nomme une petite épître. Quand Dieu m'aurait aussi bien présenté le bon loisir et l'entière santé que le vouloir ta réponse allongée serait du tiers et beaucoup mieux songé, ce néanmoins Vignals, je pense bien que tu connais que le souverain bien de l'amitié ne gît en longues lettres, en mots exquis, en grand nombre de maîtres, en riches rimes ou belles inventions, plutôt en bon cœur et vraie intention, dont je m'attends qu'excuser je serai de ton bon sens. Or, maintenant, cesserai. Ma muse faible a à peine pour chanter, mais pour le moins, tu te peux bien vanter que de Marot, tu as ta commande, petite épître et amitié bien grande. Par Narbonne, il gagne Lyon. Passe plus tard une bonne partie de l'année à Lyon. En 1539, retour en grâce confirmé pour Clément Marot, le roi lui fait don de la maison dite du cheval de bronze à Saint-Germain-des-Prés. Quand Charles Quint traverse la France l'année suivante, Marot lui présente une copie des 30 psaumes. Ce sont les psaumes de David qu'il a traduits et mis en vers. 4 ans plus tard, ces mêmes psaumes seront frappés d'interdiction. Marot se réfugie alors à Genève, où il est bien accueilli par Calvin. À la fin de l'année, il quitte Genève pour la Savoie et tente de rentrer en France. Il fait de brefs séjours à Annecy et Chambéry, puis compose une dernière épître à la victoire de Cérisole pour se réjouir de la défaite de Charles Quint dans ce village de Lombardie face aux troupes de François Ier. Marot passe en Piémont et c'en est fini de l'homme qui se nomma lui-même Oiseau du ciel. C'en est fini du poète novateur dont le nom et l'œuvre préfacent magistralement la poésie française du XVIe siècle. Le 12 septembre 1544, Clément Marot meurt à Turin à l'âge de 48 ans. Il y est inhumé dans la cathédrale San Giovanni. Son ami de longue date, le poitevin Lyon Jamais, seigneur de Chambrun, secrétaire de René de France, duchesse de Ferrare, compose son épitaphe et la fait graver sur la pierre tombale du poète. Ici, devant, au giron de sa mère, gît des Français le Virgile et l'Homère. Si est couché et repose à l'envers le nom pareil des 10 ans en vers, si gît celui qui peu de terre couvre, qui toute la France enrichit de son œuvre, si dort un mort qui toujours vif sera, tant que la France en français parlera. Bref, gît, repose et dort en ce lieu-ci Clément Marot de Cahors en Quercy. De nos jours, la poésie de Clément Marot ne compte certes pas parmi les plus lus. Ce n'est pas que son art manque de panache ni de virtuosité, c'est plutôt que les thèmes qui furent les siens se rapportent aux vicissitudes de la cour, aux conflits politiques et religieux de l'époque, ainsi qu'à ses conflits personnels qu'il faut connaître. Sa brillante poésie s'enracine dans l'histoire de la première moitié du XVIe siècle. Elle en offre un fidèle miroir. Chères auditrices, chers auditeurs, vous voici arrivés au terme de ce voyage littéraire, au début de la Renaissance, autour de la personne de Clément Marot. Pour aller plus loin, 3 livres. La biographie de Clément Marot par Jean-Luc Desjean, paru chez Fayard, et dans la collection de poche, Poésie Gallimard. L'adolescence clémentine, présentée, établie et annotée par Franck Lestringant, ainsi que les épîtres, dans l'édition de Guillaume Berton et Jean-Charles Monferrand. Merci d'avoir été à l'écoute de Occitanie, Terre d'Extase sur Radio Esprit Occitanie, une émission préparée et animée par Pierre-Jean Brassac avec la précieuse coopération technique de Shelley et la bienveillance de Jean-Luc Palévaudy et de Jacques Lavergne. Thank you.